Je demanderai une chose, que les photographes, ou apprentis photographes, veulent bien rester derrière les ficelles et pas intervenir sur le centre, pour ne pas gâcher le plaisir des autres. Merci. L'école, le lieutenant, sergent, sergent Arnaud, vous êtes en train d'observer l'ennemi. Michel, toi. Messieurs, là, les deux gars, derrière les ficelles, s'il vous plaît. Soit assis sur le banc, soit derrière. Comment?
On a du mal de tourner le banc. On a eu du mal de tourner.
Là-bas, les bons.
Non.
Il nous désigne, il n'y a qu'à la 2000 personnes.
Non, là-bas. Hey, vous n'avez pas vu qu'il y a des bons du maire?
Là.
Ah, oh là là.
Non, vous êtes sur la scène.
Ah, pardon. Scène. Excuse-moi, Philippe.
L'école du vieux tilleul.
C'est avec là, j'en comprends mal. Hein. Ça fait mal exprimer.
On est bien là.
Le 1er septembre 1939, la Wehrmacht envahit la Pologne. Face au refus de mettre fin aux hostilités, la Grande-Bretagne, puis la France déclarent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939. Personne n'attaque cependant. Nous attendons l'ennemi, derrière la ligne Maginot. Réputé infranchissable, une ligne de fortification et de défense allant de la Suisse à la Belgique. Octobre 1939, l'armée française commence à s'engourdir dans ce qu'on appelle la drôle de guerre. On s'observe. Les unités stationnées face à l'Allemagne, entre Wissembourg et le Luxembourg surtout, l'attente n'est pas aussi calme qu'ailleurs sur le front. En effet, seule la ligne juste frontière les sépare de l'ennemi. La Wehrmacht vient de plus en plus tâter les défenses, patrouillant de jour comme de nuit. Miser ce sentiment d'insécurité et recueillir à notre tour des renseignements sur ceux d'en face, la création d'unités spécialisées de patrouilleurs s'impose. C'est ainsi que, sans consigne de l'état-major, vont naître les premiers groupes francs, issus de l'expérience des vétérans de notre guerre, les premiers commandos. Ils seront ensuite recommandé de chaque régiment et formé car il se révèle très efficace. Ce choisit parmi les volontaires ceux ayant endurance au froid, à la pluie, vigueur physique, sang-froid et esprit d'équipe. Prenez votre temps, les Allemands nous attendent. Elles étaient bien attablées, hein. Les esquivages, allez. Le litron dans le sac à dos, vous aurez besoin, les petits gars. Il allait la cacher, lui. Sergent Arnaud, il faudra faire un peu plus de prestance avec vos gars à l'avenir. Oh. Alors nous allons faire un petit arrêt sur l'image pour vous présenter cette tigre. Soldat Gérard, venez voir ici. Alors vous voyez, cet homme est un fantassin du réglementaire de 1940. Vous comparerez très aisément à un poilu de la guerre précédente. Seule la couleur a changé. Il y a toujours cette tenue encombrante, lourde, parce qu'elle est mouillée, c'est terrible. Le fusil Berthier 0715, très long toujours, trop long, avec sa baïonnette très longue, les cartouchières, demi-tout. Et là, à l'arrière, la musette de masque à gaz, toujours obligatoire, et le bidon de 2 litres. C'est pas ça. Alors, dans les coffres francs, pour qu'ils soient efficaces, et ils ont été vraiment beaucoup, on leur a toléré de s'équiper et de s'armer à leur provenance. Alors, certains ont choisi le treillis, qui n'était affecté qu'aux conducteurs et aux motocyclistes, donc ce treillis imperméable, qui révolutionnait un peu cette vieille capote. Vous voyez des blousons, des canadiennes, donc il fallait qu'ils puissent se protéger du froid, ils restaient une ou deux nuits à l'affût dans la campagne. Les armes, pareil. Vous constaterez que certains armes, des poignards, des pistolets automatiques, c'était le rubis, c'est un fusil à récupérer un colt de la guerre précédente, un colt américain 1913. Le fusil a piqué un MP40, une mitraillette allemande. Vous n'oublierez pas mon chargeur, en tout cas. Ici, un vieux Lebel de la guerre de 14, Lebel modèle 1886, qui était très résistant pour envoyer des grenades. Le Berthier, par contre, était beaucoup plus fragile. Alors, c'était des grenades explosives, fumigènes et éclairantes. Éclairantes, pourquoi? Parce qu'ils étaient perdus dans la nature pour signaler à l'artillerie la position ennemie à pilonner. À côté, vous voyez dans mon blouson avec un fusil de chasse. Alors, pas très réglementaire, me direz-vous. Mais en embuscade de nuit, dans le noir, il y a du bruit, il y a l'ennemi en face, on ne le voit pas. Chargé de chevrotine, de cartouches, et bien c'est que ça bouche en V. Ça fait du mal. La pelle qui servait à côté, qui servait évidemment pour donner son trou, mais aussi à fuiter, constituer une arme de combat rapproché, très dangereuse. Les armes courtes étaient privilégiées, comme le mousqueton, 1892, ou celui-ci, le R35. Bien, on reprend. Je ne peux pas trouver cela. Alors, les gars, le commandement estime que les Allemands nous séparent un seul coup. Alors, votre mission. Vous connaissez le terrain par cœur. Vous allez vous poster en embuscade, nous choper une patrouille, la détruire, mais vous ramener un prisonnier. Il faut absolument qu'on sache qui sera. Or, les petits gars, allô ? À ce niveau, merde.
Allez, on y va. Allez. Allez, c'est parti.
Les Allemands attaquent le Guinée 40 par la Belgique, ce qui déclenche l'exode d'une partie de la population du nord-est. L'exode commence. Les femmes, les enfants, les vieillards partent à pied sur les routes, emportant ce qu'ils ont pu, d'autres avec des véhicules de toutes sortes, en défile interminable. Ah. encouragé, là. Encouragé, là. De vieux véhicules verniers. Le Verniers n'a pas fabriqué que des camions, mais des voitures également. Il date de 1932. Ce brave homme, avec son seul bien, reposait et quelques victoires dedans. Paysan part avec son cheval et sa carriole. Petit garrot accroché à première vue. Ah, bravo les gars! Pas de bobo chez nous?
Bon, lieutenant, pas de bobo tué. On a détalé avec notre prisonnier avant l'arrivée des renforts.
Bien! Yeah. Alors, deux pour l'interroger dans la cabane. Soldat. Alors? Bourrez un peu, il n'a pas l'air nerveux. Guy, le garde dans la cabane. Deux à l'intérieur. Un, deux. Ah, il était efficace au combat. Il ne s'est pas tout trompé. Bon, les deux, les trois autres, repos sur place. En attendant. C'est un peu calme, ça bougera après. Toutes les défenses françaises sont dirigées en direction de l'Allemagne, dans le territoire de Belfort. Les réglages ont été opérés pour détruire l'ennemi. De nombreuses batteries de canons de 240, 120 sont installées dans les bois, entre tous les forts et ouvrages, et attendent le choc. Les Allemands ont cependant sondé la ligne Maginot et ont trouvé la faille dans les Ardennes. Les chars appuyés par l'aviation y pénètrent en meute interminable. C'est le Blitzkrieg. Et tous Français sont étalés dans tout le pays, alors que l'ennemi met toutes ses forces en un seul point. Il défonce tout, malgré la défense héroïque de certains régiments. Le 17 juin 40, un ordre incroyable parvient des généraux Laure et Girolle, commandant le secteur fortifié de Belfort. Ring. Véro, la vérité, mon général.
bonne chose, j'espère.
C'est pas possible, mon général, c'est impossible. Nous sommes prêts à recevoir les Allemands.
On peut en mettre.
Laisse pas ça, vous. Bien, mon général. C'est Jean-Lo. Passons devant tout le groupe. Qui tu gardes le prisonnier? Bon, les petits gars, je viens d'asseoir un ordre terrible de Belfort. Nous avons ordre de faire sauter les canons. On n'a pas assez de camions pour les rapatrier sur Belfort. L'ennemi nous a contournés. Je suis d'accord avec vous, on aurait pu les arrêter, peut-être. Mais ils nous prennent par derrière. Alors, pas à discuter, on exécute. Les artificiers, vous partez pour faire sauter ces canons et piéger les musiciens. Exécution. Toi, on va recueillir le camion par Toulon. Vous pouvez évacuer le matériel, parce que même nous, on n'a pas de camion. Il se réveille celui-ci, hein, qui ne bouge pas. Michel, commence à rapatrier le matériel.
Maman, est-ce que tu as vécu ma boucle?
Vous allez voir. Matériel, soldat Michel.
première ligne de pétrole est abandonnée. Dans la nuit du 18 juin, une unité de la 1ère Panzer Division arrive quasiment sans résistance jusqu'au front. À 5 heures, l'infanterie soutenue par un décharge entre dans Belfort. À part quelques actes de résistance, c'en est fini. Et les Allemands arrivent. Et les Allemands, qu'est-ce que ça donne? Pour les réclamer, c'est terrible. Connaissance d'un point de défense dans cette clairière. Capitaine Mayer arrive. Ne venez pas devant lui, il est très mauvais.
Oh!
Pétain qui s'est ligué avec eux pour la Légion des volontaires français pour embaucher des jeunes soldats. Dans la mairie est aussitôt reconvertie. On enlève le drapeau. On laisse quand même notre blason de blanc-rouge parce que les administrations françaises existent toujours sous gouvernance allemande. Et un horrible panneau va être suspendu sur le porche. Commandant Tour. Et ce panneau qui est installé là, c'est la gloire du soldat allemand qui est mes enfants, évidemment. Qui étaient partis en exode reviennent. Ce sont les épiciers du village. Les Allemands, dès leur arrivée, instaurent le couvre-feu de 22h, puis de 21h jusqu'à 6h du matin. Personne dehors. Les Ausweis, permis de circuler, sont obligatoires pour tout déplacement de jour. Les pauvres gens partir d'exode reviennent. En effet, les Allemands occupent la moitié du pays. Fatigués, après une longue marche, ils reviennent chez eux. Leur maison a souvent été pillée.
À la discussion nationale de l'État français, mesdames, messieurs, monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle.
Quoi ?
Mon frère, un appel de monsieur le président de la République. J'assume. À partir d'aujourd'hui, la migration du gouvernement de la France. Plus de l'affection de notre admirable armée, élu avec un héroïsme digne de nos traditions militaires, contre un ennemi supérieur.
S'infiltrer pour connaître un soldat français peut-être immobilisé, qui serait plus allié.
Thank you.
J'arrive, plus fort, recommence.
Dans ces heures plus nombreuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le groupe pour atténuer son malheur. Dans ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, des moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et passent leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie.
Discours du général Pétain, qui tente de rassurer la population et qui a décidé de collaborer avec les Allemands. Et hébergés. Ils réquisitionnent tout ce dont ils ont besoin. Là, le capitaine a décidé de confisquer le cheval. Sous escorte, il a accompagné la commandanture où ce pauvre paysan doit partir avec son chariot. Les Français commencent à manquer de tout. Les cartes de rationnement sont instaurées en octobre 40. Les civils se rendent à l'épicerie en faisant la queue. Pour un citadin et de 275 grammes de pain par jour, 350 grammes de viande à l'écorce par semaine, les autres étaient souvent gros, 100 grammes de matière grasse par semaine, 70 grammes de fromage pareil par semaine, 200 grammes de riz par mois, 500 grammes de sucre par mois, 250 grammes de pâte par mois. On n'en est pas loin avec ça. Les gens ont faim. À la campagne, se débrouillent mieux en jardinant. Le marché noir se développe ainsi, afin de profiter des misères de tous. Les prix sont 3-15 fois plus chers. Le tissu et tous les produits non alimentaires également sont rationnés. En septembre 40, les lois anti-juives sont promulguées. Ils doivent se faire enregistrer dans les commandantures. Le port de l'étoile jaune est obligatoire à retirer dans les mairies contre 3 tickets de rationnement textile. C'est terrible, il fallait en plus payer. Les enfants, avec leur école, se promènent. les enfants et que l'institutrice.
Ah, ils ont une petite patrouille.
Ils ne chantent plus. Il n'y a plus de joie là. Quand ils voient le visage mauvais des soldats ennemis. Et eux sont transportés en wagon, en bestiaux, dans les camps de concentration. En même temps, les hommes sont d'abord invités et puis obligés d'aller travailler dans les usines allemandes pour combler les pertes sur le front. Certains se sauvent et se cachent. Ils ne touchent plus de tickets de rationnement. Ils sont punis de mort. L'épicerie va bientôt fermer, la nuit approche. Quelques-uns repartent avec des légumes, une bouteille de vin, quelques fruits. Le 18 juin, le général de Gaulle appelle les Français qui s'est réfugié en Angleterre.
L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper, partout où cela se peut, une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacité française de production d'armement doit être organisée partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Suite à cet appel, la résistance se lance d'abord timidement. Une pauvre dame qui essaie de rentrer chez elle est interceptée par la patrouille. Vous avez été chercher bien loin dans les champs quelques pommes de terre pour nourrir sa famille. Les gendarmes n'avaient pas de pitié. Elle est emmenée à la commandanture et ses pommes de terre serviront à d'autres. La garde reste dans la commandanture. La résistance va se lancer d'abord timidement. Et du gars là. On suit des tracts anti-Vichy, des journaux, qui sont imprimés clandestinement.
envoyer un autre. Il y a 12 drôles d'armes à la main. Il porte une clairvoyette, une pince. Très souvent, lorsque les véhicules ennemis n'étaient pas gardés, ils étaient sabotés. Il va se glisser sous la vente du moteur, enlever la goupille et dévisser les coups de la barre de direction qui relie à la bielle. Après quelques chaos, le camion partira dans le décor. D'autres sont passés, vous avez vu, avec des musettes. Ils vont saboter un bâtiment, un ouvrage qui gênera l'ennemi. Il arrive doucement dans la nuit. Affiche clairement la couleur avec son panneau SFI. Force française à l'intérieur. Ils ont descendu le gaz. Et faire enlever les drapeaux du noir rouge, il est largué. Le patrouille va être envoyé sur les lieux d'explosion. Capitaine Maya, vous avez peut-être pas entendu une explosion au loin. Vous avez vu quelques actes de résistance, mais beaucoup d'autres actions étaient effectuées. L'envoi par radio morse de tout renseignement concernant la position de troupes, de matériel, d'usines, de trains chargés au service de renseignement anglais. Production et machines sabotées dans les usines, plasticage de pont, voie de chemin de fer, lignes téléphoniques et électriques. Nous allons se partir à la recherche des saboteurs. Les pieds tortures étaient pratiqués par ces criminels afin de connaître les autres membres des réseaux de résistance qui étaient ensuite massacrés et enterrés dans des charniers creusés par eux-mêmes. Comme un soldat allemand a été tué, des otages vont être emmenés. La pauvre dame qui avait été prise pour le marché noir qui a été un petit peu malmené, à première vue.
On verra.
Les prisonniers, vous avez fait des amours.
dévoué partisan, ouvrier et paysan sous la larme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang, des larmes.
Le prisonnier était abattu à vos plaisailles.
Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades.
Dans l'occupation, les Français en profitent pour régler leurs différends.
Ohé, les tueurs à la balle et au
fond. Nous envoyons des courriers anonymes à la commandanture ou aux partisans pour obtenir des avantages. Quelle bassesse! Dans certains postes, des fonctionnaires et dans la résistance ouvrent discrètement à la vapeur d'eau des courriers destinés à la commandanture. Donc voici un affaire réelle. L'un d'eux est envoyé sans signature ni nom. Je vous signale qu'Albert Maître fait partie d'un groupe communiste et qu'il a des armes chez lui. Son père et son fils sont pariés à lui. Ils habitent à Tel Aviv. Par recoupement, les résistants soupçonnent Madame Maître en instance d'un divorce difficile avec son mari Albert de vouloir se venger. Un petit cercueil ou une de couvent est d'abord déposé dans sa porte. Une nouvelle lettre, 15 jours après, avec plus de détails, et parlant des menaces reçues. Monsieur Arnaud, on a compris le résistance sera alors chez elle. Une fois.
Elle
est abattue.
Elle est abattue. Il est tombé. À la bonne fois.
Dans un coin.
Dégage un peu le terrain, toi. Oh, la fouille, dégage le terrain. Le GFC est en bas, il bouge ou quoi? Le conducteur du GFC. Bon, une fois les prisonniers parqués, les Français vous emmenez. Les véhicules sont tout seuls. Les Français, vous revenez. Le véhicule, là, vous le... La nuit, reculez.
Le bouton,
la quantification est terminée.
Juste un petit mot, effectivement, pour remercier la personne qui nous prend en photo, si vous pouvez le remercier, parce que c'était notre maître de cérémonie pour la cérémonie tout à l'heure sur la place de l'église. Et je vous remercie toutes et tous pour votre présence. Je remercie également l'association Souvenirs et Amitié pour cette reconstitution. Et puis, je vous invite, sans plus tarder, à nous rejoindre juste derrière, là, pour ceux qui nous voient, juste à l'espace partage, pour prendre le verre de l'amitié et continuer les échanges avec les membres de l'association. Et merci à tous les bénévoles qui ont participé pour ce matin. Et les enfants également, de l'école. Voilà. Merci à tous.